France Culture.
Réplique, la Révolution française des années 60, avec Antoine Compagnon et Jean-François Sirinelli. Le titre de cette émission m'a été inspiré par le sociologue Henri Mandras, que citent Antoine Compagnon et Jean-François Sirinelli dans leurs livres respectifs. 1966, l'année mirifique, et Le temps qui passe, la France qui change, écho du monde d'avant. La France a beaucoup changé, en effet. Une révolution a eu lieu dans les années 60 du XXe siècle. « Cours, camarade, le vieux monde est derrière toi », scandaient enthousiastes les baby-boomers en mai 68. Or, vous avez choisi pour votre enquête, Antoine Compagnon, une année beaucoup moins célèbre, 1966. Je vous pose donc cette question inévitable. Pourquoi ce choix, Antoine Compagnon?
Je pourrais vous donner deux raisons. Une raison personnelle, au titre de ce que Pierre Nora appelait l'égo-histoire. Je suis né en 1966, pour ainsi dire. C'est-à-dire que j'avais 15 ans ou 16 ans, et c'est l'année où je me suis éveillé au monde, aux idées, après un certain nombre d'années hors de France. C'est l'année où j'ai découvert la France, et c'était une France très frénétique, très agitée, très mirifique, comme je le dis. Donc voilà pour l'égo-histoire. Et je crois que nous sommes très nombreux à être nés en 1966, parce que c'était une année excitante. L'autre raison, vous l'avez évoquée, c'est pour moi le début de cette seconde révolution française. À mes yeux, la France a été en guerre entre 1914 et 1962. Il n'y a pas véritablement d'interruption dans l'entre-deux-guerres. En 18, la France est au tiers détruite, on est dans une économie de guerre, jusqu'au moment où on entre dans l'avant-guerre. Puis il y a l'Indochine, l'Algérie, c'est dans une parfaite continuité. 62-64, c'est le choc des rapatriés. Donc c'est seulement après 64 qu'on peut sortir de ce long moment que je dis d'économie de guerre. Et c'est à partir de 64 que les choses commencent à changer, que les Français se rendent compte qu'ils sont plus riches qu'ils ne croyaient, que la télévision en 1966 entre dans la 50% des foyers, ce qui est une date capitale. Et au fond, je pourrais dire que 66, c'est un peu le 89 de la seconde révolution française. Les états généraux, la prise de la Bastille. 68, en revanche, ça serait le 93 de la révolution française, l'explosion. Et disons, l'année 65-66 contient tous les ferments de ce que l'on découvrira par la suite et qui nous mène jusqu'à aujourd'hui. Je crois que nous sommes encore en 5e République à cause de l'élection présidentielle de décembre 65 qui a véritablement légitimé un régime né d'un coup d'État en 58, d'un référendum plébiscite en 62. C'est le ballotage de décembre 65 qui donne la légitimité d'un régime dans lequel nous sommes encore et qui, dans 2 ans, aura atteint le record de la Troisième République, 70 ans, et qui peut-être, je l'espère, le dépassera. Donc, oui, on a beaucoup des ferments, nous allons parler du monde intellectuel, de toutes ces publications qui marquent là aussi une rupture profonde. On pourrait parler également de la place des femmes dans la société. C'est l'année de la contraception. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de changements démographiques, politiques, économiques, sociaux, culturels qui datent de 66 et qui, pour beaucoup, déterminent le monde dans lequel nous sommes encore.
Alors, direz-vous aussi, Jean-François Sirinelli, que cette année est une année excitante?
Pour les années 60, je suis absolument d'accord, je souscris à ce qui vient d'être dit, et j'aurais
sans doute l'occasion pendant l'émission de le redire. Vous avez raison de choisir comme thème la Révolution. Je crois qu'on a, à l'échelle d'une décennie, une Révolution française. C'était le cas dans le titre d'Henri Mandras. Moi-même, il y a une vingtaine d'années, j'ai écrit un ouvrage qui s'appelait « Les 20 décisives » où je partais de 65. Donc, tout à fait d'accord sur, j'allais dire, le diagnostic. Alors, simplement, ensuite, est-ce vraiment 66 ? L'historien, quand il sonde, en quelque sorte, quand il fait des forages, en fait à différents endroits. Et donc, ce qui a été dit sur l'importance de cette année est incontestable. Pour autant, l'année 65 est, à mes yeux, tout aussi importante. Donc, je dirais, pour ma part, que je suis né, pour reprendre l'expression donc d'Antoine Compagnon, au milieu des années 60. C'est là où tout bascule. Et donc, de ce point de vue, 1968 est un accélérateur de particules historiques, mais la mutation, la métamorphose est déjà en cours à ce moment-là. C'est un percolateur, si vous voulez, beaucoup plus qu'un moment de naissance d'un mouvement.
Oui. Je suis absolument d'accord, parce que je commence en septembre 65.
Absolument, oui.
En fait, c'est l'année... Puisque j'ai cité l'élection qui est capitale...
De décembre.
Le prix Renaudot des choses en novembre 65. C'est un moment 65-66, qui donne l'élan de ce qui se produira par la suite.
Alors, restons à ce moment, parce que ce qui m'a frappé, c'est que vous accordez tous les deux une véritable importance à une querelle que j'avais oubliée personnellement, la querelle Antoine-Johnny Hallyday. Et vous allez jusqu'à vous demander, Jean-François Cirinelli, s'il ne s'agit pas d'une bataille d'Hernani des années 1960. Si c'est une bataille d'Hernani, ça signifie aussi... l'absorption de la culture dans la culture de masse. C'est vrai, il y a une chanson d'Antoine que vous citez, Antoine Compagnon, Antoine centralien et chanteur. Ma mère m'a dit, Antoine, fais-toi couper les cheveux. Je lui dis, ma mère, dans 20 ans si tu veux, je ne les garde pas pour me faire remarquer, ni parce que je trouve ça beau, mais parce que ça me plaît. J'ai reçu une lettre de la présidence me demandant « Antoine, vous avez du bon sens. Comment faire pour enrichir le pays ? Mettez la pilule en vente dans les monoprix. » Et comme il se moque de Johnny Hallyday dans cette chanson ou dans une autre, celui-ci lui répond par une autre chanson « Cheveux longs, idées courtes ». Pourquoi c'est important, Antoine Compagnon ?
Johnny, c'est les yéyés. Il y a eu cette grande nuit de Salut les copains en 1963 qui a fait scandale parce qu'il y a eu beaucoup de grabuges et de destruction. Antoine est un... Bon, il est d'une autre génération, c'est un beatnik. Il a les cheveux longs, c'est des chemises à fleurs. Et il est finalement beaucoup mieux admis par... Par exemple, Georges Pompidou, qui le cite, j'indique cela, dans son discours pour la remise des prix du concours général. Donc, il est admis par une certaine culture supérieure. Et d'ailleurs, Salut les copains résistera pendant près d'un an avant de lui consacrer un numéro, alors qu'il est un phénomène de mode. Bon, c'est anecdotique, hein, cette querelle Johnny-Antoine, mais c'est un moment important... Moi, à mes yeux, parce qu'il marque l'émergence de cette culture jeune. Les jeunes deviennent des agents économiques. Ils achètent des 45 tours, ils achètent des livres, ils vont au cinéma. Bon, ils font partie de cette nouvelle prospérité. Et c'est ça qui est particulièrement marqué. Ce qui est intéressant, c'est que personne ne peut ignorer la querelle Johnny-Antoine, y compris le Premier ministre qui en parle à la Sorbonne.
Et il est vrai que c'était l'époque aussi où les cheveux des jeunes gens s'allongeaient aux grandes dames de leurs parents et aussi de certains coiffeurs. Je me souviens qu'un jour, c'était avant les 66, j'ai demandé à un coiffeur de me coiffer pas court ou pas trop court. Il m'a renvoyé. Il m'a dit « Ah non, je fais pas ça », il m'a renvoyé. Donc, cette révolte d'Antoine, je me souviens très bien de sa signification. Mais pourquoi lui avez-vous vous-même accordé un chapitre, oui, Jean-François Cirinelli ?
Un chapitre. Alors, je souscris à l'analyse qui vient d'être faite, simplement je la complète avec quelques précisions. Comme vous le disiez, il y a une phrase, si j'ose dire, litigieuse dans la chanson d'Antoine, c'est « On va mettre Johnny en cage à Medrano ». Donc il y a une sorte de sacrilège qui est commis envers l'idole des jeunes dont on parle avec dérision. Mais il y a, vous le disiez aussi, une réponse, cheveux longs, idées courtes. Et derrière cette querelle, hein, et c'est pour ça que je me suis permis de dire querelle d'Hernani, d'autant que les chemises à fleurs d'Antoine rappellent le gilet rouge de Théophile Gautier d'une certaine façon. Donc il y a toute une série de symboles, mais je force à dessin le trait. Mais derrière, il y a une réalité. Nous sommes dans un tournant. La première partie des années 60, ce sont les yéyés. C'est-à-dire, donc, c'est l'adaptation presque, j'allais dire, par la voix et pas du tout par les paroles, des chansons américaines. À partir du milieu des années 60, il y a la musique pop qui envahit tout l'espace occidental et surtout, c'est une musique qui va se politiser et s'érotiser. Donc, on passe des copains aux camarades. Et quelqu'un comme Antoine, dans sa chanson, vous le citiez, parle de la pilule. Or, c'est encore régi par la loi de 1920. Vous disiez, ça va changer, ça ne change qu'à la fin de l'année suivante, puisque la loi Neuwirth est du mois de décembre 1967. Donc on est, si vous voulez, dans un discours qui n'est pas le même, et par ailleurs, on aura l'occasion d'en reparler également, ça s'érotise. La première partie des années 60, c'est le flirt. Avec Antoine et la musique pop, on est sur un autre registre en ce qui concerne les sexualités en Europe occidentale.
Alors, c'est l'année des sucettes de France Gall, chanson de Gainsbourg. France Gall qui n'avait pas perçu la dimension érotique possible de cette chanson. Donc c'est l'année 65-66, c'est l'année du débat sur la contraception. François Mitterrand évoque la contraception dans la campagne présidentielle à la télévision. Le général de Gaulle est scandalisé qu'on prononce ce mot à cette heure-là.
Oui, alors c'est très... Vous citez une phrase de Gaulle à Perfit, qui est absolument incroyable, parce qu'effectivement, il est question de légaliser la contraception. C'est Lucien Neuwirth qui fait cette proposition, dès 66. Voici la réponse du général de Gaulle. « La pilule, jamais. On ne peut pas réduire la femme à une machine à faire l'amour. Si on tolère la pilule, on ne tiendra plus rien. Le sexe va tout envahir. » Nous n'allons pas sacrifier la France à la bagatelle. Voilà effectivement le débat de 65-66.
Sans oublier qu'Antoine avait substitué la pilule au cannabis dans la chanson, qui au fond était encore plus scandaleux.
Oui, c'est vrai, mais le cannabis, c'est son producteur qui lui demandait de changer.
Oui. Et donc, c'était beaucoup mieux avec la pilule, parce que la pilule est vraiment le débat de l'année.
Et aussi, c'est l'émergence de la jeunesse comme acteur, comme bioclasse, pour reprendre l'expression d'Edgar Morin. Et d'ailleurs, vous le dites, le jeune est en tant que tel élu homme de l'année par le magazine Time en 1966. Alors, comment analysez-vous cette émergence d'un nouvel acteur historique, le jeune ?
D'abord, la couverture du premier numéro de janvier chaque année de Time est importante parce que, effectivement, elle entend refléter. Et quand on regarde, vous le disiez à l'instant, celle de 66, ce sont les jeunes, ou plus exactement, ça s'appelle le 25 ans et en dessous. En d'autres termes, ce sont les jeunes. Et quand on regarde l'année d'avant, c'est le général Westmoreland, chef des opérations militaires au Vietnam, chef américain. Et quand on regarde 67, c'est Lyndon Johnson, président. Donc vous voyez que Time entend placer en quelque sorte cette classe jeune sur le devant de la scène. Alors pourquoi ? Parce que de fait, c'est le moment d'une montée, alors dont on essaiera de mesurer peut-être tout à l'heure ses conséquences anthropologiques, mais le phénomène, il est là. Il est indéniable pour au moins deux raisons. La première, c'est le nombre. Hein, au commencement, il y a le nombre. Il faut pas, prenons le cas français, par exemple. Avant la guerre, dans les années 30, certaines années, effectivement, les cercueils l'emportent sur les berceaux. Après la guerre, et même d'ailleurs, ça commence, et c'est un mystère, en quelque sorte, au cœur de la Seconde Guerre mondiale. L'inversion se fait en 42-43, alors qu'il y a 1,5 million de jeunes mâles qui sont prisonniers, de jeunes mâles français, dans les camps de prisonniers, dans les stalags et les oflags. Là, il y a l'inversion de la démographique et donc le baby-boom, c'est la classe d'âge de l'après-guerre. L'année la plus prolifique, c'est 49. On parlait d'année mérifique 66, année prolifique 49.
C'est moi.
C'est moi également. Donc,
moi 5 ans.
Donc effectivement, il y a une sorte de reconstitution de ligue de baby-boomers à travers cette émission. Mais je reviens à mon propos. Le premier élément, c'est au commencement, il y a le nombre. Le deuxième élément, c'est qu'on les a présentés essentiellement comme des mutins, c'est-à-dire des rebelles. C'est une idée assez fausse. Songez par exemple que la jeunesse étudiante au milieu des années 60 en France ne représente que 15% d'une classe d'âge. Donc le jeune français, ça n'est pas en majorité, loin de là, un jeune étudiant. Songez que 40% des jeunes qui arrivent sur le marché du travail seront des ouvriers. Donc on a, si vous voulez, incontestablement un tournant. Ce ne sont pas des mutins, mais ce sont des mutants. C'est-à-dire que c'est la génération qui va accompagner le basculement anthropologique qui a lieu. C'est l'objet de notre réflexion.
Qu'est-ce que vous appelez basculement anthropologique, Jean-François Sirinelli ?
Alors, basculement anthropologique, il y a, Antoine Compagnon le rappelait à l'instant, parallèlement, le socle socio-économique qui change, la société française qui change, l'économie qui est portée par les Trente Glorieuses, 6% l'an de croissance, excusez du peu. Ce que j'appelle le basculement anthropologique, c'est une autre dimension, c'est une autre temporalité, ce sont les normes et les valeurs qui régissent le comportement collectif d'une société. Et c'est en train de changer, on en a déjà dit un mot à l'instant, c'est en train de changer à cette époque.
Très bien, alors vous parleriez aussi de basculement anthropologique, Antoine Compagnon.
Je parle d'abord, on entre dans la société de consommation, la société des loisirs, et les jeunes sont des consommateurs, une classe de consommateurs. C'est l'âge du transistor. On n'est plus à l'âge de la radio dans la salle de séjour familiale. Chacun a son transistor. Salut les copains. Le livre de poche, dont je parle beaucoup, qui se développe dans ces années. Donc les jeunes sont des consommateurs. Le cinéma qui est bon marché. Et il y a un nouveau public. Ils sont une nouvelle classe. On est à 15% en gros de reçus au baccalauréat par classe d'âge, mais ce sont des années, au milieu des années 60, à partir du moment où on prolonge des études, justement à partir de 64, un peu après la fin de la guerre d'Algérie, où le nombre des étudiants augmente de 14% par an, ce qui est fou. Donc il y a là ce que j'appelle les nouveaux intellectuels aussi, qui vont être des consommateurs de culture. Et pendant un grand nombre d'années, cela va en effet porter la culture. N'oublions pas, dans le basculement anthropologique, la place des femmes. C'est une année pour les femmes, 1966. La loi sur le mariage change le statut des femmes qui désormais peuvent signer un contrat de travail sans l'accord de leur mari, faire toutes les opérations financières qu'elles veulent, acheter et vendre des actions sans l'accord de leur mari. Et c'est en 1966 qu'apparaît le mot d'ordre dans des grèves à travail égal, salaire égal. Donc n'oublions pas qu'il y a aussi ça, et les femmes sont très nombreuses comme étudiantes. Elles sont déjà pratiquement à 50% dans les universités, alors que dans les grandes écoles, elles n'ont pas accès. Je suis passé par une grande école où il n'y avait pas de femmes, jusqu'à une date bien ultérieure. Donc, elle représente pour beaucoup ce basculement anthropologique. J'évoque ces courts-métrages de Romère, que tout le monde peut voir sur Internet, qui sont formidables, sur la femme française, qui lui sont commandées à ce moment-là.
Oui.
Oui, je suis d'accord sur ce basculement anthropologique. Quand on parle, n'oublions pas non plus que décembre 65, c'est la fin de Vatican II. Donc l'Église catholique a fait son aggiornamento et c'est ce qui permettra de grands changements là aussi.
Et d'ailleurs, l'un d'entre vous, je crois, c'est vous, Antoine Compagnon, vous citez cette phrase, les femmes ont été les agents secrets de la modernité.
C'est Edgar Morin
qui dit ça. Morin, oui.
Les agents de la modernisation sont les femmes, mais c'est ce que dit De Gaulle aussi. Elles veulent des machines à laver, elles veulent des frigidaires. Les hommes sont plutôt des agents de l'ordre. Ils ne veulent pas que leurs enfants mettent les pieds sur la table. Tandis que les femmes, elles sont les consommatrices. De Gaulle a un peu peur des femmes, de cette montée des femmes en puissance. Edgar Morin, c'est dans cette enquête sur Plausévé, dit que les femmes et les jeunes sont les opérateurs de la modernisation de la France profonde.
Oui, vous rappelez cette formule pour ces boomers, pour ces jeunes. Ce sont les enfants des 4 P. Paix, prospérité, plein emploi, progrès. Époque heureuse, et pourtant ces mutants, ceux qui ont eu cette grâce de la naissance tardive, eh bien, en 68, ils deviendront des mutins. Mais alors c'est quoi ces 4 P et qu'est-ce que ça dit encore des années 60?
Oui, Antoine Compagnon, en brossant tout à l'heure la décennie tout entière, y a fait allusion. Il y a toute une série de données qui se modifient. Et donc, j'ai essayé de les résumer dans un livre précédent à travers ces 4 P. Alors, le premier, naturellement, c'est la prospérité. Je le disais à l'instant, on a à cette époque une croissance de 6% l'an. Ce matin, la presse se réjouissait parce que nous allions avoir une progression de 0,9%, je dis bien 0,9% l'an. À l'époque, on est 7 fois ou 6 fois et demi plus avançant. Donc on a une prospérité indéniable. Songez que les gens dont nous parlons, que ce soit les intellectuels du livre d'Antoine Compagnon ou plus prosaïquement les jeunes baby-boomers qui naissent intellectuellement à cette époque-là, ils sont dans une France dont le niveau de vie moyen est multiplié par 2 entre le milieu des années 50 et la fin des années 60. Nous sommes dans une France littéralement enrichie. Le plein emploi, le mot se suffit à lui-même. Nous sommes dans un contexte de plein emploi où chaque génération nouvelle s'insère sur le marché du travail sans beaucoup de problèmes. Les 2 autres P sont plus intéressants parce qu'ils sont tout neufs. Le 3e, c'est la paix. Antoine Compagnon le rappelait tout à l'heure, la France a vécu jusque-là, depuis presque un siècle, depuis la guerre de 70, sous le signe de la guerre, sous le signe du chagrin et du deuil qui touchait chaque génération et chaque famille. D'un seul coup, en 62, c'est la fin des guerres coloniales et c'est la coexistence pacifique. Certes, les fusées russes menacent éventuellement, mais si vous voulez, la génération elles-mêmes, les jeunes, n'ont pas à se préparer à mourir pour la patrie. Est-ce bien, est-ce mal, c'est une autre donnée, mais nous sommes presque, vous le voyez, à nouveau dans de l'anthropologique. Et enfin, et c'est essentiel, le 4e P, c'est le progrès. C'est-à-dire pas simplement la croyance, la foi dans le progrès, aussi bien à gauche qu'à droite, il y a la réalité du progrès, qui veut dire tout simplement que demain est meilleur qu'aujourd'hui pour soi et pour les siens. En d'autres termes, il y a un 5e P qui est la progression. On peut progresser dans son existence et la génération suivante progressera. C'est, on va dire, la France de la marge de progression. Voilà donc pour moi ce que sont les 4 P.
La France de l'optimisme.
Absolument.
Antoine Compagnon.
De l'optimisme, oui, mais il est remarqué à partir des élections justement présidentielles de 65. Que la jeunesse n'est pas enthousiaste et qu'il n'y a pas de politique de la jeunesse. Donc c'est pourquoi le général de Gaulle nomme en janvier 1966 un ministre de la jeunesse. Il n'y a pas de ministre de la jeunesse depuis Vichy. Il n'y a pas de politique de la jeunesse depuis Vichy. Mais le régime s'inquiète parce qu'en décembre 1965, François Mitterrand a eu la majorité chez les jeunes, la classe des 21-35 ans. Et il y aura des élections législatives au printemps de 1967 que le régime s'inquiète de ne pas emporter. Comme on sait, il l'emportera de très peu en 1967. Donc le régime se soucie de la jeunesse dès décembre 65, tente de mener une politique de la jeunesse. C'est ce livre blanc de François Missoff qui sera un fiasco total. Et c'est ça qui mènera à 68. Mais il y a des articles très intéressants de François Mauriac dans son bloc-notes en 65-66 qui est à l'honneur du général de Gaulle, sauf sur ce point. Le général de Gaulle et le régime n'ont pas su donner des buts à cette génération du baby-boom. On en est très conscient à ce moment-là. Bon, l'un des soucis des maisons de la culture d'André Malraux touche à cette question.
Mais comment expliquer justement que cette jeunesse des 4 P, qui n'est certes pas enthousiaste, se soit très massivement révoltée en 1968. L'année 66 annonçait-elle cette révolte? C'est vrai, vous citez De la misère en milieu étudiant, la brochure situationniste, où se trouve déjà la formule que je croyais 68arde, jouir sans entrave, vivre sans tambour. Il n'empêche, c'était une surprise, 68, d'ailleurs, c'était une surprise aussi pour nombre de ses acteurs.
D'abord, je voudrais faire une précision, et on pourrait d'ailleurs ajouter un P majuscule supplémentaire, c'est une jeunesse privilégiée, je m'explique, elle est privilégiée à l'échelle mondiale. Faut jamais oublier que ce que je viens de décrire, c'est-à-dire ces 4 P, c'est la jeunesse occidentale. À la même époque, qu'est-ce qu'on a? On a des jeunesses qui sont sous le joug, dans l'ergastule. Regardez par exemple en Chine à l'époque, c'est le moment de la révolution culturelle chinoise qui commence justement en 66-67, dont les acteurs, les jeunes gardes rouges, vont être ensuite, dans un premier temps, ce seront les bourreaux, puis ils vont être les victimes. On a chiffré à une vingtaine de millions les jeunes chinois qu'on renverra vers les campagnes après les événements de la fameuse révolution culturelle. Regardez aussi ce qui se passe à la même époque en Europe centrale, dans les démocraties populaires. On voit ces jeunes travailler par la musique qui vient d'ailleurs, mais Jan Palach mourra immolé par le feu en janvier 69 sur l'une des places de Prague. Donc, je reviens à votre question, hein, je ne l'ai pas oublié, mais il faut voir donc une jeunesse privilégié. Et donc, votre question n'en est que plus importante. Pourquoi ces mouvements qui la travaillent? Alors, d'abord, j'y reviens, ils ne travaillent pas, ces mouvements, toute la jeunesse. Antoine Compagnon avait raison de préciser que le milieu étudiant augmente. C'est pas contradictoire avec mon propos. Effectivement, 15% au milieu des années 60 sont étudiants. Mais c'est la génération du baby-boom. Ils sont très nombreux. Ils étaient 10% au début de la décennie. Ils sont 20% à la fin de la décennie. Et donc, effectivement, il faut imaginer une université qui quadruple en une décennie. 150 000 en 61, 600 000 en 68. Donc déjà, c'est une jeunesse qui vit, non pas confiné, mais qui vit dans une sorte de mécontentement par rapport à ses conditions de travail. D'autre part, et on retrouve le milieu intellectuel, il y a de grandes idéologies d'extrême gauche qui travaillent à cette époque. Cette jeunesse, c'est tout le cœur ou la toile de fond d'une partie du livre d'Antoine Compagnon.
Antoine Compagnon.
La réforme a été capitale, la réforme de l'université de 1966. La réforme Fouché. La réforme Fouché avait deux piliers. D'une part, l'abolition de l'année de propédeutique, c'est-à-dire l'abolition de toute sélection à l'université, puisque l'année de propédeutique servait en fait à opérer à la fin de la première année une sélection. Depuis, on n'a jamais su revenir sur cette décision qui a été prise là. Et l'autre, c'était la création des IUT. Et les IUT n'atteignent pas aujourd'hui le volume prévu pour 1970. C'est ce qui a fait exploser les universités. Nous connaissons tous les campus qui se sont créés à Paris, à Orsay, à Nanterre, dans toutes les villes de France. Et ces campus ont été le lieu de l'insatisfaction. J'insiste sur le malaise étudiant. Dès qu'il y a des étudiants, il y a le malaise étudiant. Il y a le BAPU, le Bureau d'aide psychologique étudiant. Et je cite un texte de Félix Guattari qui est passionnant, qui nous dit que un étudiant sur 300 devrait être hospitalisé. Donc, chaque amphi, quand on fait cours, il y a au moins un étudiant qui devrait être en institution psychiatrique. Et il y a un grand malaise étudiant qu'on connaît d'autant plus que les étudiants ne sont plus des héritiers. Jusque-là, les étudiants étaient des héritiers. Ils savaient pourquoi ils étaient là.
Alors, cela étant, vous avez raison, Jean-François Cérinelli, de souligner que c'est un phénomène occidental. L'Europe centrale connaît une autre évolution. Et il y a eu d'ailleurs un malentendu en 68, mais à Paris, printemps de Prague. Ce malentendu a été levé par Milan Kundera en montrant la différence entre ces deux événements. Je le cite, le mai 68 à Paris a été une explosion inattendue. Le printemps de Prague, l'achèvement d'un long processus enraciné dans le choc de la terreur stalinienne des premières années après 1948, le mai de Paris, porté d'abord par l'initiative des jeunes, était empreint de lyrisme révolutionnaire. Le printemps de Prague était inspiré par le scepticisme post-révolutionnaire des adultes. Le mai de Paris était une contestation enjouée de la culture européenne, vue comme ennuyeuse officielle sclérosée. Le printemps de Prague était l'exaltation de cette même culture, pendant longtemps étouffée sous l'idiotie idéologique, la défense autant du christianisme que de l'incroyance libertine et bien sûr de l'art moderne. Le mai de Paris affichait son internationalisme. Le printemps de Prague voulait redonner à une petite nation son originalité et son indépendance.
Il y a tout de même quelque chose qu'il faut ajouter. C'est que 68, c'est aussi les grandes grèves. Or, 65-66 sont des années d'étiage très bas des revendications sociales. 1965 est l'année où il y a eu le moins de journées perdues de travail depuis la libération jusqu'à aujourd'hui. Et 66 est une année où tout à fait dans la norme. Il n'y a pas de grande grève en 66. Tout ça est lié justement à l'élection qui a lieu en décembre. On est en attente de quelque chose de la part du régime en 66. Et ce quelque chose ne se produit pas. Le régime en 66 n'est pas capable de reprendre la main sur la jeunesse et sur la société et en attente de quelque chose. C'est en 67 que commenceront les grandes grèves de Rodias Eta qui annoncent 68.
Oui, alors ce qui annonce un peu 68, ce sont les polémiques intellectuelles de l'époque que vous rappelez, Antoine Compagnon, dans votre livre. Et ça m'a beaucoup frappé, leur caractère ultra-politique. C'est-à-dire que Soler s'explique que Robe-Grillet et les auteurs du nouveau roman sont les agents de la bourgeoisie. Simone de Beauvoir dit que le structuralisme est pour la bourgeoisie technocratique un instrument des plus utiles. Sartre qui dit de Foucault qu'il développe une idéologie nouvelle, le dernier barrage que la bourgeoisie puisse encore dresser contre Marx. Donc cette ultra-politisation de la vie intellectuelle avec des termes et des slogans qui annoncent 68, époque des mutins. Mais là, je pense effectivement à cette extraordinaire formule de Philippe Muret, les mutins de Panurge. Mais comment expliquer aujourd'hui cette ultra-politisation de la vie intellectuelle, de la polémique intellectuelle, Antoine Compagnon?
On est là aussi à un moment de transition. Disons qu'au début de 1965, il y a encore, je dis, quatre monstres sacrés qui occupent la scène, qui sont Mauriac, Malraux, Aragon et Sartre. Et à la fin de l'année 66, ils ont été remplacés par des gens qui sont pas tellement plus jeunes, mais qui occupent désormais le terrain, qui sont Lévi-Strauss, Foucault, Lacan, Barthes et Althusser. Et ce passage de relais se fait à ce moment-là. À mes yeux, il coïncide avec la réforme de l'université et le besoin d'une nouvelle méthode à l'université. Et c'est lorsque Lévi-Strauss disait que la linguistique était la science pilote de toutes les sciences humaines, on avait besoin d'un discours de la méthode à enseigner à ces nouvelles classes d'étudiants. Et c'est à ça qu'a servi le structuralisme. L'article de Pierre Bondieu, qui date de l'automne 1966, dans Les Temps modernes, sur le structuralisme, qui porte sur la polémique Barthes-Picard, est très intéressant, puisqu'aux yeux de Bourdieu, il s'agit purement et simplement d'une lutte pour le pouvoir, entre les anciens et les nouveaux.
Bourdieu réduisait tout, d'ailleurs. Bourdieu réduisait tout à une lutte pour le pouvoir.
Une lutte pour le pouvoir. Et donc, les contenus importent peu. Ce qui importe, ce sont les positions dans le champ intellectuel et dans le champ universitaire. Donc, oui, c'est une politisation. Et dans la querelle Sartre-Foucault, puisque c'est une des plus violentes, Foucault considère qu'il se débarrasse du 19e siècle en se débarrassant de Sartre, comme Solers considère qu'il n'a plus à faire alliance avec Robe-Grillet, que Robe-Grillet, c'est encore de l'humanisme, Robe-Grillet, donc c'est la mort de l'homme.
Et maintenant, on se débarrasse des boomers, hockey boomers, et ainsi en finit-on avec le XXe siècle. Et on nous dit effectivement qu'il est temps pour nous de disparaître. Jean-François Sirinelli, que pensez-vous de cette hyper-politisation de l'époque ?
Effectivement, on a des idéologies qui traversent en quelque sorte non seulement le corps social, mais plus spécialement le milieu intellectuel, qui jouent un rôle, je reprends l'expression de tout à l'heure, de percolateur. Mais il faut bien voir que les idéologies qui traversent ce milieu intellectuel sont en train de changer à cette époque. Et c'est peut-être une réponse à la question que vous posiez tout à l'heure sur l'écart entre ces jeunes plutôt privilégiés par l'histoire et leurs aspirations quelquefois révolutionnaires, c'est que dans les années 50 encore, la vision du monde, c'était dans le fond bourgeoisie prolétariat, une classe opprimée, mais qui serait le levain de la révolution à venir, et la bourgeoisie qui était une classe d'oppression. Dans les années 60, on a un glissement qui est à la fois un glissement thématique de bourgeoisie prolétariat, on passe à tiers-monde et lutte de libération nationale. Et donc, on va avoir aussi bien ces jeunes qu'un certain nombre de ces intellectuels qui vont mener des guerres par procuration. Car l'autre glissement, c'est que ça ne se passe plus en Europe. Sartre dit à la fin des années 50, je le cite, « L'Europe est foutue ». C'est-à-dire que, à ses yeux, pour lui, tout l'histoire se fait ailleurs. Et donc, ça n'est pas une réponse à la question que vous me posiez exactement sur les idées de ces intellectuels, mais, si vous voulez, la toile de fond, non seulement a changé, mais elle a plus de densité idéologique qu'au cours de la décennie précédente. Il faut bien avoir ça en tête, sinon on ne comprend pas cette politisation.
Alors, je pense qu'il faut aussi tenir compte de... Enfin, je parle beaucoup du comité central du Parti communiste de mars 66, oui, à Argenteuil, qui est capital, puisque c'est là où le Parti communiste a raté son aggiornamento. Et je pense que ça a un rôle considérable dans ce qui s'est produit en 68, puisque c'est là que l'UEC... qui mobilisait les étudiants, l'UNEF et l'UEC ont réussi à mobiliser les étudiants durant la guerre. Union des étudiants communistes les ont mobilisés durant la guerre d'Algérie et ils ont raté la transition en se séparant des Italiens, ceux qui voulaient la réforme, puis des trotskistes, puis des maoïstes. Et le Parti communiste n'a plus été en mesure d'encadrer les jeunes, et notamment les jeunes étudiants et les jeunes intellectuels. Et ça aussi, c'est une des clés de 68 que nous ne pouvons pas négliger. Et je dirais de tout ce qui va se produire par la suite, puisque ayant raté le coche au printemps 1966, puis Valdecrochet est éliminé, et c'est Georges Marchais qui lui succède, le Parti communiste... qui avait les jeunes jusque-là, les jeunes éclairés, ne les aura plus jamais.
Oui, je souscris tout à fait. UEC, vous le disiez, Union des étudiants communistes, à nouveau, les jeunes. C'est-à-dire que les fractures ont lieu à cette époque, et c'est la même chose dans les organisations catholiques de la jeunesse. On parlait tout à l'heure de Vatican II, tout s'y passe. Mais ensuite, il faut bien voir qu'il y a une lutte qui va symboliser en quelque sorte les basculements, c'est la guerre du Vietnam. Ce qui est intéressant, c'est que ces jeunes vont se reconnaître dans cette guerre dont le Viet Cong, avec son ascétisme apparent face à la plus grande puissance militaire du monde, il y a là toute une analyse à faire et incontestablement, l'éducation politique de cette génération, quand elle a lieu, car je le répète, il ne faut pas exagérer l'importance statistique des jeunes gens engagés à l'époque à l'extrême-gauche. Cette éducation, elle se fait sous le signe du Vietnam. Ce qui fait d'ailleurs que dans les années 70, elle se fera sous le signe de la perte de cet idéal, puisque le Vietnam apparaîtra après les Boat People comme une guerre non seulement perdue, mais comme une guerre immorale, alors que la guerre d'Espagne, pour la génération précédente, restera une guerre noble, même si elle avait été perdue par les républicains espagnols.
Et l'éducation de la jeunesse aujourd'hui se fait sous l'égide de la cause palestinienne, avec certaines conséquences qu'il ne m'appartient pas de développer ici. Revenons à la querelle intellectuelle. Vous avez parlé du débat Barthes-Picard, il portait sur la lecture de Racine. Mais qu'en reste-t-il aujourd'hui? Je me pose la question, parce que vous citez Barthes, Antoine Compagnon, il n'y a plus ni poète, ni romancier, il n'y a qu'une écriture. Une écriture intransitive, c'est-à-dire qui ne vise pas quelque chose de spécial, et une écriture qui veut en finir avec l'illusion référentielle, la mimésis, la célèbre formule de Ricardou, on passe de l'écriture d'une aventure à l'aventure d'une écriture. Barthes lui-même a rompu avec ce qu'il a appelé son surmoi théorique. Tout d'un coup, a-t-il écrit en 1977, il m'est devenu indifférent de ne pas être moderne. Et dans sa conférence « Longtemps, je me suis couché de bonne heure », il dit de « Guerre et paix » que c'est un grand roman, comme hélas, on n'en fait plus. Dans son séminaire « La préparation du roman », il confesse son désir de la langue française, ce qui explique le choix d'une œuvre filiale. Il veut écrire une œuvre filiale. Donc, cette évolution de Roland Barthes lui-même ne témoigne-t-elle pas de la caducité de cette querelle? Ou bien faut-il en retenir quelque chose? Antoine Compagnon.
Je rappelais que Bourdieu y voyait une pure querelle de pouvoir. Et moi j'y vois la substitution d'une méthode à une autre à la base de l'enseignement des lettres et sciences humaines. Au fond, ça a coïncidé avec la perte de la culture classique et du latin, et il fallait donner aux jeunes étudiants une méthode qui ne venait plus des humanités classiques. Et c'est à ça qu'a servi la poétique et la narratologie et les méthodes formelles dans l'étude de la littérature. Bon, tout ça s'est ensuite transmis dans l'enseignement secondaire, très rapidement, et a rencontré un certain nombre d'obstacles et de réactions au fait qu'on traitait de la littérature sans beaucoup parler des contenus ou des idées ou des valeurs. Mais tout ça, c'est un peu ancien maintenant, et j'ai souvent l'impression que c'est une période un peu oubliée que celle de ces querelles Barthes, Picard. On s'intéresse plutôt au dernier Barthes, au voilà. Barthes des fragments d'un discours amoureux, au Barthes claire. De la chambre claire. C'est ce Barthes-là qui retient les jeunes, s'ils lisent encore, et je crois qu'ils lisent encore Barthes.
Oui, et c'est vrai aussi que il est vrai aussi qu'une autre définition de la modernité s'est imposée, non pas la rupture, non pas la table rase, mais pour citer une nouvelle fois Kundera, le fait d'avancer par de nouvelles découvertes sur la route héritée, ce qui est quand même tout à fait autre chose. Mais il y a aussi une réalité des années 60, Antoine Compagnon, de 66 même, sur laquelle vous insistez beaucoup. Et ce chapitre m'a énormément intéressé, c'est la polémique née de la parution de deux livres, celui de Hannah Arendt, La banalité du mal, et celui de Jean-François Steiner, préfacé par Simone de Beauvoir sur la révolte de Treblinka. Alors, parlez-nous de cet événement. Et pourquoi est-il si important à vos yeux, Antoine Compagnon ?
Il est très important parce qu'il occupe toute l'année 1966. Le livre de Steiner, Treblinka, est publié au printemps. La traduction du livre de Hannah Arendt est publiée à l'automne 1966. Et j'ai envie de dire qu'au début de l'année, dans les consciences françaises, on ne fait pas encore de différence entre les camps de déportation et les camps d'extermination. On parle des camps en général, dans toute la littérature. À la fin de l'année, il est clair, pour tous ceux qui ont un peu suivi ces polémiques et ces débats, qu'il y a une spécificité du génocide. On ne parle pas encore de Shoah, mais je crois qu'on a compris la différence. 1966, le grand film de 1966, c'est La Grande Vadrouille. C'est une image de la guerre qui est encore facile. Et puis, on entre très vite, dès 67, dans le premier grand livre sur le Veldiv, et bientôt Le Chagrin et la Pitié. Donc là aussi, il y a un basculement. Alors, le livre d'Hannah Arendt a fait scandale avant d'être traduit en France. Ben, en raison de la thèse de la banalité du mal qui faisait d'Eichmann
un fonctionnaire
qui n'était pas particulièrement raciste et enragé. Bon, c'était une erreur. Maintenant, tout ce qui a été dit d'Eichmann nous montre qu'elle s'était trompée. Et l'autre thèse, c'était celle de la responsabilité des conseils juifs dans la Shoah. Et là aussi, c'est une thèse qui a été contestée, c'était une thèse erronée, puisque le génocide a été pire là où il n'y avait pas de conseil juif dans l'ancienne Union soviétique. Mais Steiner, lui, va encore plus loin, puisque c'est non seulement les conseils juifs qui sont en quelque sorte collaborateurs de la Shoah, mais les juifs eux-mêmes, à travers cette phrase qui est répétée comme un leitmotiv, qu'ils se sont laissés mener à l'abattoir comme des moutons. C'est cette phrase qui fait scandale, et alors que, quand le livre est publié, un certain nombre de commentateurs sont enthousiasmés par le livre, la réaction met quelques mois à s'exprimer, et le livre c'est un livre maudit aujourd'hui.
Et c'est un livre maudit, mais ce que je peux comprendre, parce que j'ai lu certaines phrases du livre ou d'entretiens donnés par Steiner dans votre livre, qui m'ont absolument révolté. Donc je ressentais la honte d'être un des fils de ce peuple, la honte d'être un des fils de ce peuple dont, au bout du compte, 6 millions de membres se sont laissés mener à l'abattoir comme des moutons. Et il disait qu'ils se sont laissés transformer en complices de l'extermination de leur peuple. Il dénonce cette lâcheté, il ressent de la honte. Ça me rappelle, à contrario, une phrase de Lévinas dans Autrement qu'être ou de l'adolescence, où il cite Novalis, il y a quelque chose à dire en faveur de la passivité. Et je voudrais renvoyer aussi à un très bel article écrit naguère dans Le Message européen par Béatrice Berlewitz, comme des moutons à l'abattoir. Donc c'est terrible que, je trouve que le génocide entre dans la discussion au travers de ce livre que je trouve indigne. Qu'en pensez-vous, Jean-François Cilianelli ?
Alors, d'abord, il faut bien voir qu'on parle d'une époque, et c'est tout le cœur du livre d'Antoine Compagnon, qui est encore une époque de la civilisation du livre. Ce qui est passionnant, c'est que, à part des querelles sur vinyle comme Antoine et Johnny Hallyday, la vie intellectuelle française, dont, et c'est l'autre enseignement de ce livre, il faut jamais oublier qu'elle rayonne encore. On parle là actuellement d'une culture mondiale, si vous voulez, à cette époque. Et j'insiste là-dessus parce que si nos auditeurs doivent retenir aussi un aspect essentiel de nos propos, c'est que c'est le moment où débattre sur Racine, je fais allusion naturellement au débat Barthes-Picard, ça n'a pas un retentissement mondial, mais on en parle à l'autre bout du monde dans les universités. Donc on est dans une civilisation du livre. Tout va changer dans les décennies suivantes avec le tout se vaut culturel où justement Antoine, Johnny Hallyday seront égaux d'une certaine façon à Barthes Picard. Mais je reviens à votre question pour ne pas l'éluder. Moi, je ne suis pas spécialiste ni d'histoire littéraire ni de la Shoah. Simplement, je peux témoigner de deux choses. D'une part que, et Antoine Compagnon le dit, 150 000 exemplaires vendus dans l'année qui suit la publication. C'est-à-dire que cette querelle, ce débat, va toucher cette fois-ci, le public cultivé. Moi, je me rappelle, j'avais un oncle qui était médecin de campagne en Corse et dans sa bibliothèque, il y avait Trebinka.
Oui.
Donc, de ce point de vue, par-delà, naturellement, les querelles qu'on peut faire et qui ont eu lieu à l'époque, il y avait leur noblesse par rapport à un livre qui, apparemment, d'après mes souvenirs, a des traces presque d'infamie par certains aspects, si vous voulez, il y a quand même l'idée qu'un débat sur l'extermination à 150 000 lecteurs à l'époque. Donc, pour moi, c'est essentiel. Si vous voulez, il ne faut pas oublier qu'à la même époque, la grande vadrouille, c'est 17 millions d'entrées. Donc, vous voyez, on n'est pas dans les mêmes jeux d'échelle, mais on est au-dessus de sur Racine, qui probablement, ou même Hannah Arendt, Antoine Compagnon cite les tirages, 8 000 de tirages, et il en reste 3 000 trois ans après, 5 000 en trois ans. Voilà, civilisation du livre et réel écho de ce débat.
Alors, Compagnon.
Bon, évidemment, le livre de de Stanière a été très lu parce que c'est un récit romancé à partir de témoignages de témoins sur ce qu'était le camp de Treblinka, et beaucoup de Français l'ont appris là. Et puis Steiner avait voulu faire un récit héroïque. S'il choisit Treblinka, c'est parce que à cause de la révolte, de ceux qui se sont révoltés, qui se sont échappés, dont certains ont survécu pour témoigner. Donc Steiner était un drôle de bonhomme. C'était le fils d'un disciple du sionisme révisionniste, mort à Auschwitz. Il a été dans les kibboutz et il a été parachutiste en Algérie. Donc il avait vu des formes de violence et il reprend un argument dont Hannah Arendt nous dit qu'il a été exprimé en Israël au moment du procès Eichmann. Les jeunes qui ne comprenaient pas que les Juifs se soient laissés faire. Et elle en parle.
Argument qu'Anna Arendt ne reprend pas à son compte.
Elle ne le reprend pas à son compte, mais elle l'attribue à Ben-Gourion.
Oui, c'est ça.
Et au fait que Ben-Gourion voulait que ce procès soit une propagande pour la force d'Israël. Et elle ne le reprend pas, elle le cite, mais Steiner le développe, et c'est ce qui donnera lieu à la polémique.
Et Steiner témoigne au procès Papon, en faveur de Papon parce qu'il aurait aidé un juif, et en disant que ce procès de Papon est une indignité. Donc il va quand même très loin, Steiner.
Il ira Antoine très Compagnon. Loin. Ce qui est le plus intéressant à mes yeux dans les suites de ce Treblinka, c'est la conversion de Pierre Vidal-Naquet,
oui,
que nous avons bien connu, qui commence par un article dans Le Monde d'une critique très favorable au livre, et puis qui, après 2 ou 3 mois, se rend compte du caractère sulfureux du livre. Et Vidal-Naquet nous dit que ça déterminera chez lui une conversion de toute sa vie. Son intérêt pour la lutte contre le négationnisme vient de là.
Et il a publié « Les assassins de la mémoire », notamment, dans le cadre de cette bataille contre Robert Florissant. Ben, écoutez, il me reste à vous remercier tous les deux. Jean-François Sirinelli, vous avez publié « Le temps qui passe, la France qui change, écho du monde d'avant » aux éditions Odile Jacob, 1966, année mérifique. Votre livre, Antoine Compagnon, est publié chez Gallimard dans la belle collection « Bibliothèque des idées ». C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut, avec la collaboration de Roxane Nata, à la réalisation François Connac, à la technique aujourd'hui Michel Gassic.